Chapitre 36. Marcel Duchamp met le bazar partout. Paul s'était rendu avec Mona au marché d'Évreux, en Normandie. Et sous le soleil de juillet, il avait loué et installé pour le dimanche un petit stand à ciel ouvert, coincé entre un fripier et une baraque à crêpes. Il y avait exposé la demi-douzaine de prototypes de vieux téléphones à cadran qu'il avait démontés et trafiqués pour permettre les appels mobiles. Le modèle vedette était en bois, avec une cloche de métal, et rappelait délicieusement l'époque de Proust. Les curieux passèrent, puis s'arrêtèrent, s'intéressèrent, et enfin abondèrent. Paul multipliait les démonstrations. Vers la fin de la journée, une petite foule était agglutinée autour de lui. Comme il ne s'agissait que de prototypes, il fallait faire une réservation pour recevoir ultérieurement un appareil sur mesure. Les clients en étaient frustrés, naturellement, mais d'autant plus empressés. Le résultat de la journée s'avéra fort encourageant. Vers 19h30, Paul comptabilisait déjà 11 commandes à 300 euros chacune. Un reporter du journal local, le Paris-Normandie, débarqua en lui promettant de faire au moins une brève, et le photographia. Pour la pose, Mona suggéra que son père empoigne un combiné en bois d'une main et un cellulaire à écran tactile de l'autre. Quant aux fripiers et aux marchands de crêpes, ils étaient contents. La foule aimantée par le stand de Paul gonflait leur chiffre d'affaires. Pour la peine, Mona se vit offrir un gros bonnet rouge et une galette Livarou salade de premier choix. À l'heure de remballer, Paul fut accosté par un dernier client. « Je vous achète l'appareil en bakélite, 600 euros tout de suite. » Et de tendre le liquide en petites coupures. Paul n'en revenait pas, mais déclina et répondit poliment que pour l'instant, il ne prenait que des commandes. Sur le chemin du retour vers Montreuil, Mona ne cessa de dévisager son père. Malgré le succès de la journée, il restait égal à lui-même, modeste et gentil. Elle était heureuse pour lui. Elle lui demanda pour quel montant il aurait vendu le téléphone, et Paul répondit que celui-là, il ne s'en séparerait jamais, parce que c'était le premier qu'il avait réussi à faire fonctionner. « Même pour 10 000 euros ?» insista Mona. Et Paul, hilar, la supplia de ne rien répéter à sa mère, même pas pour 50 000 euros. L'enfant eut envie de se jeter au cou de son père tant elle aimait l'entendre sacraliser ce petit objet. Mais il était concentré sur son volant. Ce n'était pas le moment d'avoir un accident. Alors, à défaut, elle serra le série de goumi accroché au fil de pêche et en sentit l'incommensurable essence affective et la valeur mystique. Pour gagner Beaubourg, Henri et Mona passaient par la rue de Rivoli, vaste et belle artère haussmannienne sur laquelle on trouvait au numéro 52 le bazar de l'hôtel de ville. C'était un grand magasin doté au rez-de-chaussée d'amples vitrines. Dans l'une, il y avait une salle de bain rutilante et tout équipée, avec une cabine de douche à jets multiples. Mona se demanda ce qui se passerait si quelqu'un venait faire sa toilette tout nu sous les yeux des piétons. Henri prit sa remarque à la lettre et expliqua à l'enfant qu'à partir du XXe siècle, une telle provocation aurait tout à fait pu être l'œuvre d'un artiste. On aurait alors parlé de performance. Il approfondit. Il y eut, pendant la Première Guerre mondiale, un mouvement qui s'appelait Dada, et qui inventa un nouveau genre de cabaret complètement fou, où l'on faisait tout et n'importe quoi. On hurlait, on sautait, on se contorsionnait, on déclamait. L'anarchie offerte au public était considérée comme une création en soi, et devait exprimer l'absurdité de l'époque. Mais le goût de la performance s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale. On s'est alors mis à désigner comme œuvre d'art des actions en apparence contraires à ce qui est esthétique ou de bon goût. Un homme qui se fait tirer dans le bras, un couple qui se hurle dessus jusqu'à l'épuisement, un jeune garçon qui se fait délibérément enfermer dans une structure hermétique en pierre et qui y reste immobilisé une semaine. Ces actes anodins, stupides, violents, absurdes, pouvaient prétendre au statut d'œuvre d'art. Henri, qui sentait sa petite fille très décontenancée par ses propos, enfonça gaiement le clou. Et figure-toi que cette folle aventure a précisément commencé ici, au bazar de l'hôtel de ville. Veux-tu que nous y entrions pour comprendre ? Mona acquiesça avec enthousiasme. Pourtant, au lieu de pousser les portes à double battant du magasin, Henri lui prit la main et la conduisit à Beaubourg. Cette fois, elle était complètement perdue. C'était un objet suspendu, un porte-bouteille en fer galvanisé, dit hérisson, composé d'une base puis de 5 niveaux en forme de cercle au diamètre de plus en plus petit, les 3 derniers étant identiques. De chacun de ces 5 étages sortaient à intervalles réguliers de courtes tiges formant un angle obtus d'environ 110 degrés. Aucune d'elles ne faisait sécher le moindre contenant en verre. On pouvait les compter. Elles étaient 13 au premier niveau, 10 au deuxième et 9 aux 3 étages suivants. L'armature était consolidée par 4 traverses verticales et l'on voyait quelques rivets qui soudaient l'ensemble. Un fil tenait le séchoir dans les airs comme s'il était en lévitation et par un jeu d'éclairage, on en voyait donc l'ombre portée. Enfin, sur le cercle servant de base, était inscrit en noir d'une écriture manuscrite « Marcel Duchamp, 1964, exemplaire, rose ». Mona, perturbée, ne parvint pas à prendre le temps long d'observation qu'exigeait son grand-père. Et pour cause. Cet objet, un séchoir à bouteille, cristallisait en elle de vieilles phobies. On se rappelle combien elle redoutait celui qui se trouvait dans la brocante de son père. Elle éprouvait en l'espèce un certain malaise intensifié par l'incongruité de la présence d'un de ses congénères en suspension dans un musée prestigieux. Cela ne lui semblait vraiment pas sérieux. Et justement, Henri entreprit de lui expliquer que cela l'était parce que cela ne l'était pas. « Oui, Mona, ce n'est qu'un porte-bouteille, un trivial et vulgaire porte-bouteille, tel qu'on en trouve partout et tel que l'artiste l'avait lui-même acheté au bazar de l'hôtel de ville. » « Ah, c'est pour ça que tu m'as fait croire qu'on allait y entrer et que tu m'as finalement amené ici. Quel blagueur tu fais, Dadé !» Le blagueur en la matière, c'est plutôt l'auteur de cette œuvre, Marcel Duchamp. Retiens bien son nom, car ils sont rares à avoir eu autant d'influence que lui au XXe siècle. Mona s'interrogea. Son grand-père était-il en train de la duper? Il avait pourtant l'air sincère. Elle se souvint alors des œuvres monumentales en marbre et en bronze signées Michel-Ange et Camille Claudel et demanda s'il s'agissait là aussi d'une sculpture. « En un sens, répondit Henri, cette œuvre peut en effet être considérée comme une sculpture puisque c'est un volume qui se déploie en 3 dimensions par opposition à un tableau qui n'en a que 2. Mais ce sont là des catégories traditionnelles que Duchamp souhaite briser. Ce porte-bouteille n'a pas été fabriqué par Duchamp. Il n'a même pas été transformé, repeint ou que sais-je. Duchamp s'est contenté de le choisir, et même de le choisir parce qu'il ne présentait strictement aucune caractéristique particulière. Il n'avait rien de beau, rien de laid non plus. Il était juste ce qu'il était. Il était déjà là. Il était déjà fait. Et c'est pour cette raison que l'artiste utilisa le terme anglais de « ready-made » pour désigner l'objet.
« Mais, Dadé, est-ce que c'est une œuvre d'art ?»«
Ah, c'est la grande question. » Marcel Duchamp aurait répondu que c'est une œuvre, mais une œuvre qui n'est pas d'art. Je ne sais pas si c'est une œuvre d'art. Je sais en revanche que là, en ce moment même, elle le devient dans nos yeux. Mona fronça les siens. Elle se tut un moment et se mit à examiner plus longuement le porte-bouteille comme elle aurait dû le faire dès le début. 1, 2, 5 minutes. Est-ce que l'objet devenait une œuvre d'art dans ses yeux, comme le lui avait annoncé son grand-père? Henri rompit le silence d'une phrase célèbre de Duchamp dont il découpa lentement chaque syllabe dans l'espoir qu'elle trouve un écho au plus profond de Mona. Ce sont les regardeurs qui font les tableaux. L'enfant sourit. Elle se régalait de l'affirmation en songeant qu'elle-même, simple petite fille, jouait donc un rôle crucial chaque fois qu'elle se rendait au musée. Grâce à elle, les tableaux, les sculptures, les photographies, les dessins qui y étaient conservés s'allumaient, s'activaient. Ils devenaient ce qu'ils étaient, et même davantage. Ce que voulait lui faire saisir intuitivement Henri, c'est que Marcel Duchamp, avec son porte-bouteille et plus tard avec d'autres ready-made, soumet les regardeurs à un abîme. À partir de quel moment ou de quel seuil un objet devient-il une œuvre? Duchamp n'offre pas la réponse, mais il pose la question, ou plutôt la fait sentir, par le biais d'un geste minimal dépourvu de toute recherche esthétique ou morale. Vois-tu, Mona, Marcel Duchamp a multiplié les provocations. Il a par exemple réalisé anonymement en 1917 une œuvre intitulée Fontaine, qui était un simple urinoir retourné. Et il a ensuite souhaité qu'elle soit présentée au milieu de sculptures et de tableaux. Le comité de l'exposition n'en voulut pas, alors qu'il s'était engagé à ne refuser personne. Par son canular, Duchamp plaçait le jury devant une éternelle question. À partir de quand peut-on considérer qu'un objet devient une œuvre d'art ? Faut-il qu'elle imite quelque chose de la nature ? Ou au contraire qu'elle s'en distingue ? Suffit-il d'une signature ? Ou qu'elle soit placée dans une galerie ? Faut-il qu'il y ait eu un travail ? Et dans ce cas, qui l'évalue ? Selon quels critères ? Même si le porte-bouteille ou l'urinoir ne sont ni beaux ni intéressants de manière immédiate, ils servent à Duchamp de preuve par l'absurde.
Oui, mais moi, Dadé, je trouve qu'il faut être ému devant une œuvre.
Certes, mais d'aucuns te diront que ce n'est pas leur problème, et leur vision serait légitime également. En outre, Mona, l'incompréhension, le doute, le malaise, la rage et même le rire, car il ne faut pas oublier l'humour qui traverse tout cela, sont des émotions. Mona pensait en elle-même. C'est vrai qu'elle m'énerve, cette œuvre. Mais c'est vrai aussi que c'est amusant, ce bout de fer qui pendouille au milieu d'un musée.
Après tout, dit-elle à voix haute, je l'aime bien, ton truc. Et puis il est joli à flotter, comme ça, dans les airs. C'est comme le cavalier bleu de Kandinsky, une vraie fusée.
À propos de fusée, Duchamp raconte qu'un jour il s'est rendu à un salon d'aéronautique avec ses amis Fernand Léger et Constantin Brancusi, artistes eux aussi. Au cours de sa visite, il tombe sur une splendide hélice d'avion. Il déclare à ses camarades qu'aucune main humaine ne fera jamais rien de mieux. Il en conclut que la peinture est morte désormais.
Je suis sûr qu'il disait ça parce qu'il était très mauvais avec un pinceau entre les doigts.
Détrompe-toi, Mona. Marcel Duchamp était à l'aise devant un chevalet. En revanche, dès le début des années 1910, il a le sentiment que c'est une technique dépassée, et il souhaite faire éclater l'image classique de l'art. Ce n'est pas un hasard si ce porte-bouteille date de 1914, quelques mois seulement après cette visite au salon de l'aéronautique, où il a eu la certitude que la peinture était morte.
« Ça m'a plutôt l'air d'être 1964. C'est ce qui est écrit sur le métal, regarde. »
Rien ne t'échappe. Figure-toi que Marcel Duchamp a acheté son porte-bouteille en 1914. Par conséquent, le porte-bouteille original est bel et bien de cette année. Néanmoins, un jour, la sœur de Marcel jette l'objet par mégarde sans se douter qu'il s'agissait d'une œuvre de son frère. C'est pourquoi Duchamp a racheté des porte-bouteilles semblables au premier et les a signés, en particulier en 1964, en vue de les donner à des musées. Dans un sens, ce sont donc des répliques de l'original. Dans un autre, c'est absurde de parler de répliques et d'originaux, puisque dès 1914, le porte-bouteille en question était similaire à n'importe quel autre qu'on aurait pu trouver au bazar de l'hôtel de ville.
Il donne mal à la tête, ce Duchamp.
C'est quelqu'un qui veut en permanence casser les conventions. En bousculant ce qui régit notre quotidien, il attire notre attention sur les habitudes de la société, sur ce qu'elle admet comme un fonctionnement normal. Il démonte des mécanismes et il montre ainsi que ce qui paraît incontestable ne l'est pas.
D'accord.
Regarde ce qui est marqué sur le porte-bouteille. Rose. Ça, c'est une allusion à Rose, c'est la vie.
C'est qui, celle-là ?
C'est le nom d'un personnage fictif. Et il s'agit d'une femme dont Duchamp prenait parfois l'identité en se travestissant. Là où nous croyons qu'il y a nécessairement les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, Duchamp donnait à penser que ces catégories étaient interchangeables.
Dis donc, ton Duchamp, il a vraiment mis le bazar partout alors.
Eh oui, la leçon de Marcel Duchamp, c'est en effet qu'il faut mettre le bazar partout. Avec ce porte-bouteille, on peut considérer qu'il le fait de façon littérale. Mais sa vie et son œuvre entière ont été consacrées à semer le bazar, y compris dans les lieux les plus sérieux, à commencer par les musées. En quittant la salle, Mona se demandait où donc le hérisson de son père, symbole sordide de son alcoolisme, avait bien pu passer. Elle se rappelait ce jour où, dans la pénombre de la boutique, elle l'avait décoré de porte-clés en forme de cœur pour lui dire son amour. « J'avais donc fait une sculpture cette fois-là, » déduisit-elle. Et elle se dit ensuite que Marcel Duchamp était à sa manière un magicien, parce qu'il offrait cette possibilité extraordinaire de tout métamorphoser en œuvre d'art. La confusion qu'il opérait entre l'art et la vie la fit tressaillir. C'était presque trop beau pour être vrai.